France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Corinne Schneider.
Je suis Maren Alsop. Je suis chef d'orchestre. Je suis une maman et je suis heureuse.
Maren Alsop, bonjour et merci infiniment de nous accueillir ici dans votre loge à la Philharmonie de Paris.
Merci beaucoup.
C'est vraiment une chance pour nous parce que vous êtes une chef d'orchestre américaine demandée dans le monde entier et vous stationnez, si je puis dire, ici depuis une quinzaine de jours à Paris en ce mois de septembre 2020 parce que vous avez dirigé l'Orchestre de Paris et parce que vous êtes membre du jury d'un grand concours international qui est aussi une académie pour et destiné aux jeunes femmes chefs d'orchestre. Alors merci de prendre de votre temps parisien pour parler de vous aux auditeurs de France Musique. L'américaine à Paris, car vraiment on peut vous définir ainsi. Vous êtes née à Manhattan et on peut dire que tout votre répertoire, tout ce que vous aménagez avec les musiciens autour de vous est issu de cette culture américaine. Comment avez-vous grandi dans ce New York des années 50, début 60?
C'était une chance pour moi de grandir à New York, une belle expérience. Je dois préciser que mes parents étaient tous les deux musiciens professionnels. Donc je n'ai pas seulement baigné dans la musique populaire de New York, même si ça faisait aussi partie de ma culture. J'ai surtout fréquenté les coulisses du New York City Ballet parce que mon père était le premier violon et ma mère violoncelliste dans l'orchestre. Et petite, j'ai pu admirer les chorégraphies de Georges Balanchine. J'ai eu la chance de découvrir cette musique incroyable, d'assister à son éblouissant festival Ravel, son festival Stravinsky. Donc mes premières expériences musicales sont très liées au ballet, mais aussi très liées à la ville de New York.
Donc il était quelque part un peu naturel que vous fassiez de la musique, vous aussi, mais alors quel instrument et comment cela est-il venu dans la famille ?
En fait, je n'ai pas eu le choix. Comme vous le dites, c'était naturel. Mais c'était aussi quelque chose que mes parents voulaient vraiment pour moi. L'un jouant du violon et l'autre du violoncelle, je crois qu'il leur fallait un pianiste. C'est la raison de ma venue au monde. J'étais destinée au piano, mais je détestais le piano. Ce n'était pas mon instrument. J'en ai joué à partir de l'âge de 2 ans et j'ai pris ma retraite à 6 ans. Puis mes parents m'ont demandé si je voulais aller en colonie de vacances, j'avais 7 ans, en ajoutant comme en passant, « Oh, peut-être que tu devras jouer du violon en colonie. » C'est comme ça que j'ai dû faire 5 heures de violon par jour dans ce camp d'été à partir de l'âge de 7 ans, mais j'adorais le violon. C'est là que j'ai compris qu'à chaque enfant correspond son instrument. Il arrive qu'on se trompe. On peut mettre un enfant au piano, mais ça ne va pas, ou le mettre à la clarinette, alors qu'il est fait pour la trompette. Le violon me correspondait bien. J'en suis tombée amoureuse. Mes parents étaient ravis.
You
En réalité, les enfants n'ont pas vraiment leur mot à dire dans les décisions qui les concernent. Mais bien sûr, j'ai pris des cours avec le meilleur pédagogue de l'époque, Ivan Galamian, et son assistante, Margaret Pardy. J'ai étudié avec les meilleurs et j'ai auditionné pour entrer à la Juilliard School. J'ai été admise à l'âge de 7 ans, donc je passais tous mes samedis en classe préparatoire de la Juilliard. Ce qui me plaisait par-dessus tout, c'était de pouvoir jouer dans l'orchestre. J'adorais le son de l'orchestre. C'est là que j'ai découvert ce qu'on ressent à l'intérieur d'un orchestre. C'était magique. C'est là sans doute que l'envie m'est venue d'être responsable de tout ça. Ce qui m'a attiré des ennuis, parce qu'apparemment j'essayais toujours de diriger l'orchestre depuis le fond, depuis les derniers pupitres des violons, ça ne plaisait pas à tout le monde. Et un beau jour, mon père m'a emmené à un concert pour enfants au New York Philharmonic. Et le type à la baguette sautait, bondissait, il avait l'air de s'éclater, et j'ai dit à mon père, « Oh, tu vois, je pourrais être chef d'orchestre, ça me plairait tellement. » Cet homme, c'était Leonard Bernstein. Ça s'est joué là. Dès que je l'ai vu, j'ai su. Ok, je veux être ce chef d'orchestre.
Marine Alsop, vous entrez ensuite à Yale University. Donc là, effectivement, il y a l'ensemble des étudiants et les autres disciplines. Et vous dites avoir été intéressée par les mathématiques. Comment revoyez-vous cette période d'études ?
Mon désir d'aller à Yale, oui, c'était un peu une rébellion contre mes parents. Ils me voyaient étudier à la Juilliard, devenir musicienne et oublier tout le reste. Donc oui, c'était un peu... Bon, c'est paradoxal que l'envie d'intégrer Yale soit vue comme un acte de rébellion, mais il y avait de ça. Ce sont les seuls parents dans l'histoire à avoir dit « Pourquoi veux-tu perdre 4 ans à Yale quand tu pourrais aller à Juilliard ?» Mais j'étais très jeune. J'ai terminé le lycée à 16 ans. Je crois qu'en fait, j'étais trop jeune pour cette expérience éducative. Yale était une université fantastique. Mais j'essayais de travailler le violon 3-4 heures par jour, tout en décrochant les meilleures notes dans les matières principales, parce que je suis comme ça, il faut toujours... Et c'était trop de pression. Alors au bout de 2 ans, j'ai intégré la Juilliard et j'ai terminé mes études et obtenu mon master de violon.
Finalement, vous sortez de la Juilliard School, diplômée, muni d'un master de violon, et vous commencez à gagner votre vie, d'ailleurs, professionnelle, avec le violon, à l'âge de 21, 22 ans. Et comment voyez-vous ces années à la Juilliard ?
Ce n'est pas tant la Juilliard qui m'a influencée, mais surtout le fait de vivre à New York. Parce que j'ai commencé à travailler avec plusieurs compositeurs. Déjà avant de revenir à New York, quand j'étais à Yale, j'ai commencé à jouer du violon avec l'ensemble Steve Reich. Puis je me suis mise au violon électrique avec Philip Glass. Je me suis vraiment immergée dans la nouvelle scène musicale new-yorkaise. J'ai adoré côtoyer tous ces compositeurs et participer à créer la musique de mon temps. Cette expérience m'a plus influencée que la Juilliard. À mes yeux, Juilliard offrait essentiellement une formation technique, alors que les enseignements dispensés à Yale étaient extrêmement divers et approfondis. Juilliard ne vous ouvrait pas l'esprit, on y apprenait uniquement à jouer de son instrument. C'est à cette époque que je me suis fait mon opinion sur la formation en conservatoire. En fait, je suis contre. Parce que les artistes et nous les musiciens ont besoin de connaître le monde autour d'eux, de comprendre que l'art est un reflet de notre société. Or, à la Juilliard, on n'apprenait rien de tout ça. Il s'agissait seulement de maîtriser la technique de son instrument. Il n'était même pas vraiment question de musique, en fait, pour moi. C'est intéressant parce que j'y retourne maintenant à Juilliard en tant que chef d'orchestre et je vois qu'ils essaient de changer leur méthode. Mais c'est très difficile.
That approach, but it's very, very difficult.
Alsop, vous évoquez toute cette atmosphère musicale en dehors de la Juilliard School et il y a, il faut le dire, l'atmosphère qui régnait à la maison avec vos parents. Ça, c'est important aussi.
There are two stories to tell you.
J'ai deux anecdotes à vous raconter. D'abord, quand j'étais petite, dès que mes parents ont enfin eu un peu d'argent, ils ont acheté une toute petite maison, vraiment minuscule, trois pièces. Puis mon père a acquis la propriété d'à côté dans l'idée de construire un immense salon, cathédrale, où l'on puisse jouer de la musique. On avait donc cette minuscule maison et cette immense, presque une salle de concert pour musique de chambre. C'était sa marotte. On jouait de la musique de chambre et les amis venaient. Et plus tard, quand j'avais déjà quitté la maison, il a décidé de bâtir une salle de concert dans leur résidence secondaire, dans le nord de l'État de New York. Ça m'a fait comprendre que c'est à travers le partage de la musique que la famille existe et que les amis existent.
Est-ce que c'est dans cette atmosphère entourée de la famille que vous avez pris pour la première fois la baguette ? Et que vous avez pu ici diriger quelques pièces de jazz ou de musique classique en famille, ou est-ce à l'école?
Oui, c'est une question intéressante. Mais ce n'est pas dans ce cadre que j'ai dirigé la première fois. Mes parents savaient que je voulais devenir chef d'orchestre et ils essayaient de m'aider. Mon père m'a offert un coffret de baguettes. Ils me soutenaient vraiment. Mais la première fois que j'ai dirigé, vous savez, j'aimais réunir mes amis quand j'étais à Yale pour les faire jouer sous ma baguette et plus tard à la Juilliard, donc je m'entraînais avec eux. Et voilà ce qui s'est passé. J'étais premier violon pour un concert, de jazz. On jouait Rhapsody in Blue et le chef d'orchestre n'est jamais arrivé. Alors bien sûr, tous mes amis qui jouaient ce soir-là, je les avais engagés, ont dit « Oh, mais Marine peut diriger et moi. » Non, non. Bon, d'accord. Alors j'y suis allée, c'est ce jour-là que pour la première fois, j'ai officiellement dirigé un orchestre. Et vous savez, je me suis vraiment sentie à ma place, me tenir sur l'estrade, ça me semblait très naturel. Et j'ai compris à ce moment-là, grâce aussi à la présence de mes amis musiciens, que pour comprendre comment devenir chef d'orchestre, j'avais aussi besoin du soutien de mes amis. Et c'est ce qui m'a mené quelques années plus tard à créer mon propre orchestre avec tous mes amis.
Thank you.
Après l'âge de 20 ans, vous décidez de prendre des leçons de direction et vous suivez les conseils d'un maestro autrichien qui est à New York et qui est Karl Bamberger. Pouvez-vous nous parler de ce premier maître en quelque sorte ?
Absolument. Je voulais étudier la direction d'orchestre et je me suis dit, ok, je prendrai des cours privés. À cette époque, il était déjà assez âgé, 78 ou 80 ans. Et il avait cette culture viennoise incroyable. Il avait grandi là-bas. J'allais chez lui chaque semaine. J'économisais pour payer mes cours. Et il préparait l'appartement. Je l'adorais. Il était fantastique. Il organisait l'appartement. Il posait l'aspirateur dans un coin. Il me disait, là, ce sont tes violons. Puis les plantes, là, c'est la section des bois. Et le fauteuil, ici, tes cordes graves. Il crée un orchestre imaginaire dans l'appartement. Et c'était une façon merveilleuse pour moi de réfléchir à la direction d'orchestre et le travail des partitions. Il était formidable parce qu'il se dégageait aussi de lui cette incroyable tradition viennoise. C'était idéal pour débuter mon apprentissage. Mais bien sûr, pour apprendre à diriger, il faut avoir l'instrument sous la main. Ce n'est pas comme jouer du violon, où l'on peut répéter seul. Je pouvais m'exercer 8 heures par jour si je voulais. Pour la direction d'orchestre, je n'avais pas d'instrument. Alors comment faire? C'était la grande question.
Et puis, en 1981, vous décidez de fonder votre propre groupe. C'est très intéressant parce que vous réunissez autour de vous des instruments à cordes, des percussionnistes, une batterie, et vous vous lancez à la tête de ce que vous nommez le string fever, c'est-à-dire la fièvre des instruments à cordes.
Oui, It was very unusual and crazy.
C'est une aventure hors norme, assez dingue. C'était mon truc dans ces années-là. Voilà ce qui s'est passé. Je me disais que la musique classique était peut-être trop sérieuse pour moi. Vous savez, trop de règles, trop rigides. Alors j'ai pensé devenir musicienne de rock, mais je ne trouvais personne pour m'écrire de la musique, des partitions rock pour violon, personne ne se bousculait. Et un jour, je rencontre un compositeur, c'était sur un petit cachet, on enregistrait des jingles pour des publicités, et je l'ai vraiment apprécié, alors je lui ai dit, j'ai improvisé un petit mensonge, j'ai dit, « Oh, j'ai un ensemble de cordes, un groupe, on voudrait jouer du rock'n'roll, vous pouvez nous écrire quelque chose ?» Il a répondu, « Non, je pense pas, mais je peux vous écrire un morceau de jazz, du swing. » Et j'ai dit « Banco ». Je n'y connaissais rien, pas grand-chose. J'avais entendu mon père jouer du jazz, mais je trouvais ça un peu, je ne sais pas, un peu canaille. Vous savez, j'étais un peu snob. Mais cet ami dont je reste très proche, Gary Anderson, ce compositeur, il a écrit pour nous peut-être 10 minutes de musique. Alors il fallait que je monte un groupe. J'en avais pas. J'ai donc appelé mes amis. Hey, t'aimerais jouer dans un groupe? Après avoir contacté 6 ou 7 personnes, je me suis aperçue que je n'avais appelé que des femmes, des copines à moi, et je me suis dit, eh bien, pourquoi pas un orchestre de femmes? Au final, nous étions 14, un ensemble féminin de cordes qui jouait du swing. On ne connaissait rien au swing. On ne savait pas que la musique swing, ça doit swinger. Au début, le résultat était catastrophique. On jouait vraiment mal. Quand Gary venait nous écouter, il se tordait de rire. Il n'en croyait pas ses oreilles. Mais j'ai convaincu tout le monde de s'accrocher et deux ou trois fois par semaine, je nous avais trouvé une église à New York où répéter à 23 heures. On se réunissait, on écoutait du jazz ensemble. C'était très sympa. Puis j'ai démarché toutes les boîtes de nuit, tous les clubs de jazz à New York. Je n'avais jamais mis les pieds dans un club de jazz et j'ai fini par tomber sur la propriétaire d'un club qui m'a dit « D'accord, une formation de swing avec 14 instruments à cordes, que des femmes, ok, ça me va ». On était tout entassés sur cette scène rikiki, vous connaissez les clubs de jazz, c'est vraiment minuscule. On était toutes sur scène à jouer de nos violons. Et un critique du New York Times est venu. Il a dit, c'est le truc le plus fou qu'on ait jamais entendu, c'est dingue, il faut venir les écouter. On a donc continué à jouer là quelques années, tous les jeudis soirs, si je me souviens bien.
C'était
fantastique parce que tellement différent de ce que je faisais normalement. Et c'était aussi ce désir que j'ai toujours eu de rassembler, réunir les gens. On avait donc notre petit... c'était comme, vous voyez, un petit phalanstère. D'ailleurs, on se réunit encore maintenant une ou deux fois par an. On se retrouve, on veille sur les autres. C'est comme une famille, c'est très important. Et la musique que l'on jouait s'inscrivait vraiment dans l'expérience américaine. Beaucoup de compositeurs de musique commerciale venaient nous écouter parce que ça sortait du lot. Ils ont commencé à écrire pour nous de la musique swing, à créer des morceaux originaux. J'ai appris à improviser. Ça a vraiment aiguisé mon écoute, mes oreilles de musicienne. Le fait de travailler avec une section rythmique a changé mon sens du tempo et du rythme. Ça a été pour nous tout un voyage, une traversée que nous avons faite ensemble. Et bien sûr, quand j'ai décidé plus tard, des années après, de fonder un orchestre, j'ai d'abord contacté toutes mes collègues de String Fever, toutes mes amies. Elles sont le socle de mon orchestre.
Marine Alsop au violon au début des années 1990 à la tête de toute sa bande, celle de String Fever, une bande qui deviendra quelques années plus tard le cœur de son orchestre Concordia, qui sera l'objet du deuxième épisode des grands entretiens de la chef d'orchestre américaine, à suivre demain sur France Musique, dans cette série réalisée par Gilles Blanchard avec Michel Gassic à la prise de son, Cédric Châtelus au mixage et Ève Dair à la traduction. À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.